RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les Gigi, les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Abel Boyer, éducateur, Antoine Diers, consultant juridique, et puis nous sommes avec Barbara Lefebvre, enseignante en histoire, géographie. On va accueillir notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Ah bah oui.
Il est cravaté, et c'est l'ancien ministre de l'Éducation nationale.
Il est vraiment droit,
il est
cravaté.
Oui, c'est ça. Luc Ferry, avec ce livre aux éditions de l'Observatoire, ne vous mariez jamais, vraiment, s'interroge-t-il. On revit des couples, des histoires d'amour célèbres, à l'heure notamment des réseaux sociaux, où on se rencontre comme ça en cherchant celui qui vous ressemble le plus. Bonjour Luc Ferry.
Bonjour ami, je suis ravi de vous retrouver.
On va parler l'éloge du mariage, votre éloge du mariage, mais quand même, tout à l'heure dans l'actualité, on commentait le fait que le gouvernement a renoncé à autoriser le travail des salariés le 1er mai dans certains commerces, boulangeries, boucheries, fleuristes, et bon, ça veut dire qu'il ne va rien se passer vraiment pendant un an. Impossible de faire la moindre réformette.
Vous avez, pour comprendre la situation de la France, indépendamment des personnes, vous avez non plus deux blocs comme de mon temps, pour parler comme les vieux mammifères, où il y avait la droite et la gauche. Vous avez six courants qui se détestent entre eux, qui sont à peu près équivalents. Donc personne ne peut avoir la majorité aujourd'hui. Donc du coup, le gouvernement est totalement bloqué. Et comme la seule ambition de Lecornu, c'est de rester en place, et qui veulent pas faire sauter le gouvernement. Moi, j'adorerais que le gouvernement saute, franchement.
Ah bon?
Je préférerais qu'il y ait des nouvelles élections. Mais eux, ils veulent rester en place. Donc, leur seul but, c'est de rester en place. Donc, Lecornu est prêt à mettre 12 milliards de taxes supplémentaires sur les entreprises pour acheter le Parti Socialiste à coups de milliards d'euros. Et il est prêt à renoncer au projet qui était celui de Macron. Ce matin, sur une chaîne concurrente, il passait le discours de Macron disant qu'évidemment, il fallait autoriser le travail le 1er mai, etc. Puis bon, il a mangé sa cravate, lui aussi. Et donc, il ne peut rien se passer aujourd'hui puisque donc, personne n'a la majorité.
L'immobilisme
total.
Est en marche.
C'est la seule chose qui soit en marche, oui.
L'immobilisme
donc,
est en marche.
Là, c'est même pas de la faute, à la limite. C'est de leur faute, parce que s'ils étaient un peu courageux, ils se barreraient, mais ils démissionneraient. Mais de toute façon, personne à la place du Premier ministre ne pourrait faire quoi que ce soit aujourd'hui, puisqu'il n'y a personne à la majorité.
Donc il faudrait que le président de la République démissionne, c'est ce qu'avait suggéré Édouard Philippe.
Exactement. Et moi, je pense que dans la situation actuelle, la Ve République est morte.
Ah bon?
Voilà. Mais évidemment, moi je suis un vieux gaulliste, j'ai défendu la Ve depuis toujours, le scrutin majoritaire, mais je pense que le système allemand est bien supérieur et fonctionne beaucoup mieux, mais bon, ce serait un autre débat, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais je pense que, en plus, voyez, on est dans une société qui est tellement complexe aujourd'hui que mettre un gamin à l'Élysée et ça risque d'arriver à nouveau, ça n'a pas de sens.
Quel gamin? Vous pensez à qui?
Devinez. Je vous laisse à vous qui avez
au prince
un
consort
qui marche.
Au prince consort.
Prince consort. Quand il fait beau.
Non mais Jordan Bardella à l'Élysée, vous y croyez franchement?
Pourquoi pas? En tout cas, c'est un débat, ce qui est très possible. L'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, on aurait un débat entre Édouard Philippe et lui, et ce serait du 49-51 ou quelque chose comme ça. Peu importe, en tout cas, je pense que l'idée du président de la République, ça tenait le coup. Moi, Dieu sait que je suis pas mitterrandien, mais Mitterrand était pas un gamin débile. Bon, jusqu'à Chirac, la politique étrangère de la France était très cohérente, et Chirac était très bon sur la politique étrangère. La politique intérieure, il s'en fichait complètement, mais la politique étrangère était excellent. Et donc, et on avait des gens qui étaient respectés dans le monde entier.
Là, puisque vous parlez de politique étrangère, la France n'a pas la bonne position par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient.
On n'a pas rentré
dans cette guerre.
On a zéro position, c'est tout. On se conduit, la couardise n'est pas une position.
C'est la couardise?
Écoutez, je ne vais pas reprendre le débat sur Trump. Attendons de voir ce qui se passe. Mais il ne faut pas juger Trump à ses mots ou à sa tête. Il est odieux, d'accord? C'est clair, tout le monde le voit. Il est grossier, il est vulgaire, il est narcissique, il est menteur. Sur l'écologie ou sur la santé, il dit des conneries. Bon, tout ça, on le voit. Il faut le juger à ce qu'il fait. Et moi, je vous dis d'une manière très simple, mon logiciel moral, il est extrêmement simple. Tout ce qui peut affaiblir le régime iranien m'enchante. Point final. Et je pense que le régime iranien sortira, contrairement à ce que dit le Figaro d'aujourd'hui, très affaiblie, non pas forcément sur le plan international, mais mettez-vous à la place des familles, des 30 000 gamins qui ont été assassinés de manière ignoble. Mmh. Un jour ou l'autre, ils vont se révolter. Pour l'instant, ils peuvent pas, le régime est trop dangereux. Mais imaginons ce qui se passera dans 2 ans ou dans 3 ans. Et là, le régime est quand même très affaibli, contrairement à ce que dit la dernière page du Figaro. Et donc, tout ce qui peut affaiblir ce régime, qui est le pire régime, avec celui d'Afghanistan, hein, qu'on ait connu depuis la chute du nazisme. Donc, je pense que le dommage, c'est que Trump soit le seul à faire le boulot.
Mais on devrait l'aider alors, si
évidemment.
Je comprends bien. On devrait l'aider.
Bien sûr.
On n'est pas du bon
côté.
Simplement,
je dis ça, je suis à peu près, on est 2 ou 3 en France à le dire, mais c'est...
Alors, en France, il y a quand même un mouvement maintenant très anti-Trump. Non,
mon logiciel
est... Anti-Israël aussi, très fort.
Non, mais anti-Trump, je comprends pas.
Et qu'aujourd'hui, les deux personnages les plus critiqués sont Trump et Netanyahou.
Exactement. Et on a l'impression qu'on critique Trump autant que s'il avait assassiné 30 000 gamins aux États-Unis. Je veux dire, c'est délirant. Voilà. Et donc j'entends constamment, y compris dans les chaînes de télévision, les journaux que j'aime beaucoup par ailleurs, des gens qui passent leur temps à critiquer Trump au lieu de critiquer le régime des mollahs. Je veux dire, je suis désolé, mais on est complètement à côté de la plaque. Voyez, je trouve qu'il y a un logiciel qui est simple, tu vois, le bon sens et puis la morale. Un régime qui assassine 30 000 gamins en demandant aux policiers de leur tirer dans les yeux, et vous avez des dizaines de milliers de blessés. Tout ce qui peut l'affaiblir m'enchante. Et c'est pas vrai, il est pas renforcé aujourd'hui, il est très très affaibli auprès de sa propre population. Au moins, en plus, la population iranienne est une population très intéressante, parce que c'est pas une population antisémite. C'est une population cultivée, c'est une population avec... Alors là où Trump déconne complètement, c'est quand il dit « je vais anéantir la civilisation ». C'est des propos qui sont indignes et absurdes. C'est pour ça qu'on le déteste, et je comprends ça comme tout le monde, je suis pas idiot. Mais néanmoins, quand on regarde ce qu'il fait, pour l'instant, je suis désolé, mais j'aimerais qu'on soit à ses côtés.
Antoine,
Monsieur le ministre, quand on vous écoute, moi ça me rappelle.
Ne me dites pas ça, c'est
vous,
fini.
Vous allez voir pourquoi.
Appelez-moi ta majesté comme dans Amicalement Vôtre.
Mais non, ça me rappelle le bon temps de la droite française que j'ai aimée, pour laquelle j'ai milité. Moi j'ai été à l'UMP, j'avais les vieux RPR dans les fédérations qui m'expliquaient, ouais, monsieur Antoine, j'ai croisé De Gaulle, c'était en 62.
C'est, voilà, vous m'enchantez.
Il y avait tout ça, et quand on vous écoute, on ressent encore ça, cette droite historique gaullienne.
Mais je suis un vieux gaulliste.
Mais alors, c'est plaisant, je vous dis que voilà, c'est très plaisant. Mais alors, comment ça se fait que ce courant de pensée est disparu et été, dilué dans le macronisme, etc. Quel est votre regard sur la droite française aujourd'hui, la possibilité qu'elle revive, ce qu'elle a fait, voilà.
Malheureusement, elle est morte. Donc, elle est coincée. D'ailleurs, le problème de la gauche est le même. Les LR sont coincés entre la possibilité de l'union des droites avec le RN, mais dans ce cas-là, ils se font bouffer par le RN, comme Ciotti, ou bien les accords avec le centre, avec Édouard Philippe, et dans ce cas-là, ils deviennent macroniens. Et donc, les LR sont aujourd'hui à 13%, en gros, dans les sondages. Ils n'ont aucune chance d'être au deuxième tour de la présidentielle. Et moi, c'est mon malheur, parce que je suis gaulliste. J'étais gaulliste à l'âge de 12 ans. Alors, mon père s'est évadé 4 fois des camps nazis. Je ne pouvais pas être autre chose que... En 68, j'étais gaulliste, évidemment. Mm-hmm. Et j'avais beaucoup d'amitié pour Rocard, pour Jacques Julliard, avec qui j'ai fait une émission pendant des années, parce que je trouvais que cette social-démocratie avait quelque chose d'aimable et de juste. Il y avait des gens bien dans la social-démocratie. Cazeneuve aujourd'hui, c'est un type bien, voilà. Mais il n'a pas signé le NFP, vous voyez.
Et donc les gens bien ont disparu en politique.
Voilà. Et tout ça...
La social-démocratie et la droite traditionnelle que vous défendez, justement...
Bah, ils sont morts.
Ils sont morts.
Ils sont morts. Et le problème de la social-démocratie, c'est pareil. C'est le problème de... Il y a d'un côté le problème de l'union des droites et de l'autre côté le problème de l'union des gauches. Oui. Ils ont LFI d'un côté et le RN de l'autre. Voilà. Donc ils sont
Eux ils ont quand même moins de problèmes à s'allier provisoirement pour gagner des sièges qui dans les municipalités qui à l'Assemblée, ils se bougent quand même moins le Parti socialiste.
Ah, oui,
moins le nez pour rejoindre LFI.
Depuis toujours.
Voilà, alors que à droite, se bouche le nez définitivement.
Chère madame, on a encore un parti communiste aujourd'hui, alors que le communisme a été responsable de 120 millions de morts dans le monde. Mais pourquoi pas un parti nazi pendant qu'on y est? Donc on est chez les fous. Voilà, c'est inimaginable. J'entendais ce matin le patron du Parti communiste parler de la liberté. Enfin, les mecs, ils ont été staliniens jusqu'au bout des ongles. Et ça a été le pire régime. Il a fait 2 fois plus de morts que le régime nazi. Mais on est encore en train d'avoir un parti communiste en France. Oui, mais moi, je suis pas pour l'interdiction des passes. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il représente 2% des Français. Bon.
Oui, mais le général de Gaulle.
Et pourtant, quand on écoute la gauche, il y a des fascistes partout.
Le général de Gaulle avait fait rentrer des communistes au gouvernement après la guerre.
Mais parce que
l'heure était à la réconciliation et
évidemment parce que c'est le parti des fusillés que on avait oublié le pacte germano-soviétique.
Exactement.
On s'était empressé de l'oublier parce qu'au final. Les communistes, voilà, il y avait des jeunes communistes qui avaient été formidables, qui avaient été résistants et qui ont été assassinés par les nazis.
Oui, mais ils ont bien attendu que Moscou leur dise de résister pour résister.
Souvenez-vous, moi, quand j'étais gamin, le Parti communiste était quasiment à 30% de l'électorat. Mmh. Ouais. C'est vrai. Et tous mes copains de ma génération, moi j'ai 75 ans, ils étaient tous communistes, trotskistes ou maoïstes. Sans exception.
Et aujourd'hui, ils ont
des belles carrières.
Voilà. Et j'avais deux personnes que je respectais par-dessus tout. J'ai fait venir Raymond Aron dans mon cours, dans mon séminaire, et Jean d'Ormesson. Voilà.
C'était simplement une petite parenthèse, par exemple, sur le trotskisme. On accepte facilement des gens, aujourd'hui des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon, etc., de se dire j'étais trotskiste, Lionel Jospin était trotskiste,
Lambertiste en plus. Ouais.
Mais on a oublié aussi que Trotsky a participé à mettre en place ce régime de terreur.
C'est lui qui l'a mis en place, même toute la police politique, c'est Trotsky.
Madame qui est historienne peut vous raconter la révolte de Kronstadt, 30 000 morts, parmi des marins qui se révoltaient parce qu'il y avait simplement des asticots dans le truc qu'on leur donnait à bouffer sur leur bateau.
Exactement.
Ils se sont révoltés et c'est Trotsky lui-même qui a fait assassiner 30 000 personnes à Kronstadt.
Mais bien sûr.
Et donc il y a un livre magnifique sur la Kronstadt, lisez-le. Et n'oubliez pas que Trotsky se disait était le chef de tous les tribunaux politiques et de tous les assassinat politique pendant très longtemps. Après, il s'est pris un piolet dans la tronche, mais bon, c'est pas la pire chose qui soit arrivée dans le monde. Hein.
Pour revenir un tout petit peu à la politique, c'est mon dada. Vous avez balayé du revers de la main l'union des droites. Alors, on a beaucoup parlé de la gauche, etc.
Je dis que c'est...
J'aimerais bien vous entendre là-dessus.
Ouais. La droite aussi, l'union des droites.
Non, c'est pas ça.
Est-ce que c'est pas justement la planche de salut d'une droite qui arriverait à se faire respecter dans...
Bien sûr, le problème, c'est que dans l'état actuel des choses, comme en gros, quand vous regardez la situation politique des deux partis RN et LR, la grande difficulté pour les leaders LR, c'est qu'ils seraient littéralement dévorés, comme Ciotti, il deviendrait juste un appendice du Rassemblement National.
Ciotti s'en sort bien.
Mais
justement, grâce à l'union des droites. Mais il s'en sort pas bien sur le plan, pas comme présidentiable, il est pas présidentiable.
Mais je
parle de la présidence de la République.
Alors, qui est présidentiable aujourd'hui?
Alors, écoutez, il y a d'un côté l'union des centres, c'est Édouard Philippe, en gros, c'est très clairement le cas. Puis de l'autre côté, il y a Bardella ou Marine Le Pen, c'est tout.
Mais Luc Ferry, attendez, je voudrais revenir.
Je crois pas du tout à Mélenchon au deuxième tour, parce que tous mes copains de droite me disent, mais non, tu te vois pas, c'est épouvantable, c'est la terreur. Non, Mélenchon s'est ridiculisé tellement souvent que je crois pas du tout
à Glucksmann, etc. Je voudrais quand même revenir sur ce que vous dites sur la question de LR qui serait dévoré par le RN.
Oui,
je pense que le RN manque aussi peut-être de certains cadres très crédibles pour avoir des ministères importants. Moi, je pense que si LR faisait le pari d'aller avec le RN et de proposer leur expertise gouvernementale que le RN n'a pas, je pense que le RN serait quand même ravi d'avoir des grosses pointures comme des Retailleau, comme des Wauquiez. C'est quand même des gens qui ont une expérience ministérielle, qui ont une expérience du gouvernement. Ils seraient peut-être pas, s'ils le faisaient intelligemment, ils seraient pas dévorés par le RN parce que le RN aurait plus besoin d'eux que peut-être eux n'ont besoin de lui.
Alors, vous oubliez une chose importante, c'est qu'ils ont déjà 5 candidats à la présidentielle, juste les LR. Et que deuxièmement, vous avez la jurisprudence Chirac qui est reprise aujourd'hui par Jean-François Copé qui ferait que le parti serait coupé en deux. Donc non, ça marcherait pas.
Oui, mais le parti qui serait coupé en deux, il irait chez les macronistes.
Moi, je suis pas du tout hostile. Par exemple, je pense que Rachida Dati aurait dû évidemment s'allier avec Knafo et avec Bonnazel plutôt de refuser et de laisser Grégoire être élu. Bon, mais donc je suis pas hostile systématiquement à l'union des droites. Je dis que dans l'état actuel des choses, le parti exploserait encore plus et ils sont 5 candidats à la présidentielle à se partager 13
mais les électeurs sont partis.
Donc je dis que le parti est mort, c'est tout.
À ce qu'on appelle la droite libérale qui a jamais vraiment fonctionné en France.
Non, il y en a jamais eu, non.
Alors il y a David Lisnard qui veut l'incarner le maire de Cannes. Est-ce que vous pensez qu'il a eu une chance?
Non. David Lisnard, j'ai même de l'affection pour lui. J'ai de l'amitié pour lui. J'ai de l'affection pour lui parce que c'est vraiment un type bien. Alors, il quitte les LR, mais il ne fera pas 5%. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la réalité. Et donc, c'est un excellent maire. C'est un très, très bon maire des maires de France, si je puis dire. C'est quelqu'un de très bien. Il incarne, en effet, une position libérale qui est tout à fait intelligente. Mais je le vois à 5-6%. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je le regrette. je voterais volontiers pour lui. Mais je vois ce parti en train d'exploser avec Wauquiez, Retailleau, Lisnard, et puis je sais pas qui, et puis Darmanin, et puis je sais pas qui
Xavier encore. Bertrand.
Xavier Bertrand, voilà, les donc, voilà. Et les mecs, ils sont 12 à se présenter sur 13% des voix. Donc, voilà. Et si en plus, ils font l'union des droites, le parti est coupé en deux.
Oui.
Parce que Jean-François Copé incarnera la jurisprudence Chirac et dira, vous êtes des salopards, vous allez chez les nazis, ou à peu près, vous voyez. J'y peux rien, je vous décris comme c'est pas ma, ça me désole. Voilà. Parce que je suis d'accord avec le jeune homme.
Luc Ferry reste avec nous, question d'Abel Bouilly. Et puis on parlera amour, on parlera mariage.
Moi, ça m'intéresse, ce sera mariage.
Ne vous mariez jamais vraiment aux éditions de l'Observatoire. Luc Ferry est dans les GG.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, on reçoit un philosophe, on reçoit un éternel amoureux. Ne vous mariez jamais, c'est Luc Ferry qui est avec nous. Ne vous mariez jamais, point d'exclamation, vraiment, point d'interrogation. Ces éditions de l'Observatoire, on va en parler de livres. Abel Bouilly, éducateur.
Une question à l'ancien prof de philo.
Oui.
Vous qui parlez d'un côté de l'amour-passion en opposé, je fais exprès d'utiliser ce terme, à l'amour stable, l'amour à la papa.
Oui.
Que pensez-vous de ce qui se passe actuellement dans le périscolaire et de tous les scandales autour de la pédocriminalité? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce que vous savez que philosophiquement et historiquement, la France fait partie de ces pays qui ont participé à l'exaltation du corps de l'enfant. C'est comme ça que les pédophiles se définissaient. Il y a d'ailleurs Inès Chatin qui a été une des victimes, justement, de ce que j'appelle le gang de la rue du Bac, avec toutes ces sommités qui abusaient d'enfants. Avez-vous eu affaire à des cas pendant que vous étiez à l'Éducation nationale, soit en tant que prof, soit en tant que ministre, et que pensez-vous de la question globalement?
Oui, j'ai même été témoin dans un procès, donc c'était procès d'un instituteur. Mais là, ce qui s'est passé dans le périscolaire à Paris, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que on a quand même 75 personnes qui sont plus que suspectées d'avoir violé ou agressé sexuellement des enfants de classe de maternelle, c'est-à-dire des 4 ans, 5 ans, 3 ans. J'arrive même pas à comprendre comment c'est possible. Et là où vous avez entièrement raison, et j'ai beaucoup écrit là-dessus, parce que bon, j'avais publié le premier livre contre la pensée 68. Bon, et rendez-vous compte que jusque dans les années 70-80, Libération publie un manifeste pour la libération des pédophiles. Pas une blague. Et donc il y a ces fameuses pétitions qui sont publiées en 1977 dans Libération et dans Le Monde pour libérer les deux ou trois types qui ont été condamnés à 3 ans de prison pour des agressions pédophiles sur des mineurs. Bon, et les pétitions sont signées par Sartre, Simone de Beauvoir, Châtelet, Deleuze, enfin toute la pensée 68 y est. Voilà. Et ça se termine. Oui, bien sûr, Jack Lang. Et ça se termine. La pétition, ça se termine. Nous défendons la légalisation des relations entre adultes et enfants, des relations sexuelles entre adultes et enfants. Et il y a un livre, je vous conseille de le regarder parce qu'il est vraiment ignoble. René Scherrer, qui était le patron de la philosophie à Vincennes, qui publie un livre avec Guy Hockenheim qui s'appelle Coïré. Coïré, ça donne coït en bon français. Et donc Coïré, et ce livre a une préface dans laquelle il explique que le scandale de l'Éducation nationale, c'est qu'elle interdise la pédophilie. On dit pédérastie, ils disent pédérastie parce qu'il parle Platon. Et ce livre est truffé d'images d'enfants nus toutes les 10 pages. Je l'ai chez moi, mais ça vaut la peine de le regarder. Coïré par René Scherrer et Guy Hockenheim. Et donc, on a là, en 68, cette idée...
On revient de loin.
Voilà, il faut libérer le corps et libérer la sexualité des enfants. Bon, Danny Cohn-Bendit a eu les problèmes qu'on sait. Lui, il n'était pas pédophile, mais il défendait ça en disant, voilà, j'ouvre ma braguette quand une petite fille demande à caresser mon sexe. Voilà, bon, il ne l'a jamais fait, c'était des conneries, voilà.
Il
y a beaucoup de gens qui l'ont fait, voilà, et notamment parmi ceux qui signent Kouchner a signé la pétition, le pauvre vieux.
Oui.
Alors qu'il n'était pas pratiquant.
N'y avait-il pas possibilité à l'époque où vous étiez ministre de l'Éducation nationale de pouvoir agir dessus, parce qu'on sait que
Moi je savais pas le périscolaire. Excusez-moi, là d'abord
non,
le périscolaire.
Pas forcément le périscolaire, mais même on sait qu'il peut y avoir des profs.
Mille fois moins que dans l'Église. Non, il y a eu très peu de profs en fait. Ça a été très très rare dans l'Éducation nationale. Moi j'ai beaucoup écrit sur la pédophilie, sur la pédophilie 68. J'ai publié un tas de papiers sur mai 68 et la pédophilie. Bon, mais j'ai regardé regardé ça, évidemment, quand j'étais ministre, de très près, il y avait très peu de cas. En revanche, vous avez 20 000 prêtres dans le monde qui sont mis en examen aujourd'hui.
Mmh. C'est beaucoup. Il y a eu la commission Sauvé qui a enquêté sur les
Sauvé,
centaines de milliers.
Et Sauvé, un catholique fervent, a été incroyablement courageux. Parce qu'il a dit la vérité. Voyez, bon, je ne veux pas citer d'autres gens. Je veux pas...
Mais si on en venait à l'amour et au mariage.
Oui, j'aime mieux.
Alors,
mais pourquoi faire l'éloge du mariage?
À l'époque de Tinder et des applis.
Non, ce n'est pas l'éloge du mariage. Vous savez, 5 mariages sur 10 se terminent aujourd'hui en France par un divorce. Donc, et si on comptait les séparations en plus, parce que vous avez des gens qui restent mariés mais qui sont séparés, on arrive pratiquement à 7 sur 10. Alors, ce qui m'a intéressé dans la révolution de la courtoisie, cette littérature magnifique 12e, 13e, c'est que à cette époque, l'amour-passion est interdit dans le mariage, il ne peut exister que hors mariage. Mmh. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette période, on va sacraliser ce que les courtois appellent le dieu amour et la femme. Elle est plus importante, et le dieu amour est plus important que le dieu chrétien, et la femme est plus importante que le roi. Et il y a deux légendes qui sont magnifiques, celle de Tristan Iseut, on est en gros en 175, la première version écrite, celle de Béroule, et dans laquelle, très important, Tristan trompe son oncle, qui est le roi Marc, avec Iseut qui est marié avec le roi Marc, alors qu'il adore le roi. Simplement, l'amour est plus important que la loyauté envers le suzerain, ou même envers Dieu, le Dieu chrétien. Le Dieu amour est plus important. Et du coup, dans cette courtoisie, il y a un livre magnifique, De Amore, le de l'amour de André Le Chapelain, qui est probablement un prêtre catholique, et qui explique justement ce que c'est que la courtoisie, et que l'amour-passion n'est pas licite dans le mariage. Saint Jérôme dit, il est illicite, il est adultère. On dit adultère, non pas pour dire qu'on trompe sa femme, mais pour dire que c'est faux. Il est illicite d'aimer son épouse comme on aime sa maîtresse. Ça en dit long. Ça veut dire quoi? L'épouse, on l'aime d'amitié et devoir conjugal, debitum conjugale, mais la maîtresse, on l'aime d'amour-passion, mais c'est hors mariage, voyez. Or, ce que nous avons essayé de faire à partir du 19e siècle, en inventant le mariage d'amour, c'est de réconcilier les deux. On n'a pas réussi.
C'est là que ça a commencé les problèmes.
Voilà. Parce que l'amour-passion ne peut pas tenir éternellement dans
mais
la vie.
Mais on aime qui? Celui qui est comme nous ou celui qui est différent de nous ou celle qui est différente de nous?
Alors, c'est tout le thème de la fin de mon livre sur Tinder et Hinge. Parce que sur je me suis beaucoup intéressé, comme aux religions, à ces applications de rencontres. Vous savez que 25% de nos jeunes se rencontrent par Tinder. Voilà. Et donc, qui repose sur ce qu'on appelle en anglais le matching, c'est-à-dire la correspondance. Un peu comme les réseaux sociaux ont des algorithmes qui vous enferment dans...
Avec des gens qui pensent comme vous.
Pensent comme vous. Ouais. Voilà. Et donc, moi, je pense que les couples qui durent, et c'est le secret de la durée, y compris dans la littérature courtoise, il y a quelques romans dans lesquels l'amour-passion s'épanouit dans le mariage, comme Éric et Enide, ou Yvain le Chevalier au Lion, qui sont deux romans magnifiques. Et c'est simplement, c'est le non-matching, paradoxalement. C'est quand vous vivez avec quelqu'un qui n'est pas comme vous.
Ah bon?
Ben évidemment. Mmh. C'est la distance qui fait que le couple peut tenir. C'est la différence. C'est la singularité.
C'est l'absence de quotidien. L'absence de quotidien basique.
J'ai des amis qui habitent dans deux appartements différents. Alors, il y a une andouille qui me disait, il faut être riche. Non, on n'est pas obligé d'avoir 2-6 pièces. On peut avoir deux studios. Et qui habitent dans deux appartements différents parce qu'ils préfèrent se retrouver quand ils ont quelque chose à faire ensemble et à se dire.
Exactement. Ouais, ça, je suis bien d'accord.
Donc, en fait, les applications se font fausse route. Il faut rencontrer quelqu'un qui ne nous ressemble pas.
Le modèle de couple traditionnel fait fausse route. C'est ce que vous dites.
Alors, le couple traditionnel, jusqu'au 19e siècle, était un couple arrangé.
C'était un mariage d'intérêt.
Le grand historien Philippe Ariès, génial,
le modèle de nos jours.
Je cite dans un passage de La Princesse de Clèves, dans mon livre que j'adore, puisque la Princesse de Clèves était amoureuse du Duc de Nemours, d'accord? Et le Duc de Nemours était fou amoureux de la Princesse de Clèves. Elle était mariée, mariage arrangé par sa mère, avec le Prince de Clèves. Et puis, il y a un moment où le Prince de Clèves meurt, d'accord? Il se retrouve libre. Et donc, le Duc de Nemours va voir la Princesse de Clèves, il saute par-dessus les murs. Alors, c'est symbolique, il franchit tous les obstacles qui séparent d'elle. Il lui dit, voilà, nous sommes libres, on peut se marier. Et elle lui dit, non, surtout pas, car si nous nous marions, l'amour-passion que nous avons l'un pour l'autre disparaîtrait. Et elle ajoute cette phrase incroyable, mon mari était amoureux de moi parce que je ne l'aimais pas. Ouais. Et du coup, elle maintenait la distance. Voyez, du coup, le type, il était fou amoureux parce que il était soupirant.
Pourquoi est-ce qu'on cite toujours Roméo et Juliette comme l'histoire d'amour absolu?
Non, c'est pas.
Alors tragique même.
Oui, Luc Ferry. C'est pas celle que je préfère. Alors si elle a quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle se passe dans une période de l'histoire, Béatrice le sait mieux que quiconque, où le mariage arrangé est la règle. Mm-hmm. C'est la règle. Et donc, en fait, ils sont en train d'enfreindre une règle qui est celle du mariage arrangé. Ouais. Jusqu'au 19e siècle, la règle absolue, c'est le mariage
arrangé. Quel âge ont-ils, Roméo et Juliette, il faut le rappeler quand même.
C'est des gamins, ils ont 16-17 ans. Ouais, voilà. Et ils vont, en plus, les deux familles se détestent, et ils vont réaliser un mariage grâce à un prêtre qui est un ami, un mariage d'amour. Et du reste, c'est dans l'église qu'on va défendre le mariage d'amour en premier.
Oui. Ce qui marche pas bien dans Roméo et Juliette, justement, c'est que le Roméo, il a pas d'aventure épique, pas de quête, etc. Il est là.
Non, mais ça dure pas, de toute façon. Il meurt tout de suite, ça dure pas.
Ah, oui. Et donc, tous les vieux récits que vous nous ressortez, là où ça dure, c'est quand l'homme a une quête épique, qu'il manque à sa femme, qu'il manque de mourir 20 fois.
Oui.
Et donc, ça, pour moi, c'est une éloge. C'est une éloge à laisser vos mecs aller vivre des aventures, aller à la chasse avec les copains.
C'est pour ça que ça dure, c'est parce qu'elle ne le voit pas souvent.
Voilà, mais donc on sera d'accord.
Ils sont pas. Et le problème de la vie conjugale, c'est que l'être aimé, il est en permanence sur l'évier, si je puis. Il est là.
Exactement.
L'omniprésence. On est bien d'accord. Et en plus, il est sur l'évier, on lui demande de faire la vaisselle. Alors bonjour, le tue-l'amour.
Ouais, enfin, c'est moi qui fais la boue. Mais. Le meilleur roman de c'est Chrétien de Troyes, c'est Érec et Énide. Érec et Énide se marient, et puis alors, tous les copains, Érec est un chevalier, et tous ses copains lui disent, je parle comme aujourd'hui, tu t'embourgeoises, tu fais plus la guerre, tu vas plus dans les tournois, il faut que tu sortes, tu es dans la vie conjugale. Donc il sort, mais il emmène sa femme, mais il décide de ne plus se parler pendant une année entière. Évidemment, c'est symbolique. Mais ça veut dire que si on ne préserve pas l'altérité de l'être aimé dans le mariage, on va vers le divorce.
Vous intéressez beaucoup à l'amour courtois, etc. Mais le grand tournant aussi de l'amour et de la compréhension de ce qu'est la quête aussi de l'amour, c'est le roman du 19e, et en particulier Flaubert, Madame Bovary. Parce que Madame Bovary, elle croit toujours que l'amour-passion existe. Bon, il n'existe pas, Rodolphe, ça casse quand même pas des briques. Oui. Et son mari, quel pauvre homme. Mais en même temps, c'est celui qui sera là jusqu'au bout. Donc est-ce que, justement, entre l'amour-passion qui ne dure pas et l'amour-attachement, vous avez l'air de, à aucun moment, vouloir vraiment concilier les deux.
Non, au contraire, je passe tout mon livre est un plaidoyer pour la conciliation des deux. Et d'ailleurs, écoutez, il y a quand même 20% des mariages qui tiennent la route.
Oui. Ah, 20.
Et donc, 20%, c'est déjà beaucoup. Mais je cite évidemment l'encyclique de Benoît XVI, que j'ai trouvé géniale, moi qui ne suis pas croyant. O Theos Agapestin, en bon français, donc Dieu est amour, et dans laquelle encyclique Benoît XVI fait tout pour réconcilier Eros et Agapé. C'est ça le problème.
Très intéressant.
Et donc, et c'est son plaidoyer, ce qui est assez nouveau dans l'Église d'ailleurs, c'est très intéressant. Et donc, il essaye de réconcilier.
L'amour est un choix de tous les jours.
Il reprend la phrase de Kant, il dit Agapé sans Eros est vide, Eros sans Agapé est aveugle. La phrase de Kant sur le concept et l'intuition, peu importe. Mais évidemment, il est allemand, c'est une référence précise pour lui. Mais c'est très intéressant. Donc moi mon plaidoyer, c'est pour la réussite de ce mariage. Mais évidemment que c'est très difficile.
Oui,
parce
mais
que
juste un point, justement, notre société, c'est pas la société de la durée, c'est la société de l'immédiateté. Donc dans une société qui ne conçoit les relations humaines pas qu'amoureuses, que dans de l'immédiateté, le tout de suite et le dès que quelque chose consiste
le plaisir
à faire
tout de suite.
Et faire un petit effort, surmonter un petit obstacle, j'abandonne. Et je peux vous dire, et vous le savez, la nouvelle génération, on le voit même dans l'effort scolaire, c'est à la moindre difficulté, j'abandonne. Si on abandonne à la moindre difficulté, l'amour-attachement ne naîtra jamais de l'amour-passion. Donc comment on fait?
J'ai pas de baguette magique.
Ah
le problème, c'est ce que je dis, ce qu'il faut faire.
Je dis
à mes enfants comment il faut faire. C'est tout. Je leur dis voilà. J'ai une fille qui vit avec son chéri depuis 7 ans. Je suis sûr qu'ils vont passer les 20 ou 30 ans qui viennent ensemble. C'est en tout cas ma conviction et c'est la leur. Mais je sais pourquoi. C'est parce qu'ils ont chacun leur travail. Ils vivent pas toute la semaine ensemble. Ce garçon est formidable. Il est extrêmement intelligent. Il a 25 ans, mais il a déjà
le gendre a été
créé habité. Un travail. Il est incroyable, ce gamin. Et ma fille aussi, d'une certaine manière. Ils ont tous les deux leur boulot. Ils vivent pas toujours ensemble.
Voilà. Ils feront des enfants parce que le mariage
était aussi. Ils sont tellement mignons.
Non, mais le mariage, c'était aussi pour la descendance.
Mais évidemment.
Mais là, attendez, on est une nouvelle génération.
Impatiemment les bébés.
Oui, mais on est une nouvelle génération qui ne veut plus faire d'enfants, en tout cas qui veut en faire moins.
Alors, est-ce que vous savez quel est l'âge moyen du mariage aujourd'hui, cette année en France?
37 ans, le mariage.
Non, en 1900, c'était 22 ans, 21 ans, 22 ans.
Sûr,
et donc, évidemment, aussi que la dénatalité est liée. Non,
il faudrait dire premier mariage, âge du premier mariage.
Je parle l'âge moyen du mariage. Ouais, okay. Après, vous pouvez raffiner.
Ouais, c'est ça,
mais c'est quand même dingue.
Et, le premier voilà,
et donc, moi, évidemment, je dis simplement aux jeunes qui se marient ou qui vont se marier. Mais surtout, ne vous étouffez pas l'un l'autre. La pesanteur et la grâce, Simone Veil. L'immense risque, c'est de perdre la grâce au profit de la pesanteur. Parce qu'on est là tous les jours ensemble. Et si on n'a pas chacun un métier, si on n'a pas chacun, en tout cas, des occupations très fortes, et si on est constamment l'un sur l'autre, si on est jaloux, par exemple, la pesanteur, la jalousie est une forme de pesanteur, on bouffe l'altérité. Et c'est pour ça que les applications de matching, là, le Comhinge ou Tinder, c'est très bien pour se rencontrer, mais c'est pas bien pour la durée. Vous voyez?
Luc Ferry, ne vous mariez jamais, point d'exclamation, vraiment. Combien d'années de mariage, Luc?
Ah bah, presque 28.
Et combien de mariages?
3.
Il a beaucoup
aux éditions. Celui-là, c'est le dernier.
Il tient.
Aux éditions de l'Observatoire.
Mais j'aime toujours ma femme, mais bon, voilà, peut-être que je ne suscitais pas chez elle l'amour-passion suffisamment. C'est aussi ça.
Merci Luc Ferry d'être passé par les GG. Le livre, on vous le conseille, aux éditions de l'Observatoire, ne vous mariez jamais. Vraiment. Allez, dans un instant, suite et fin des GG, on va revenir sur les nouveaux esclaves de notre société. Ils font 63 heures par semaine, ils gagnent moins que le SMIC. Ce sont les livreurs à vélo, avec notre complicité. À tout de suite au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
Il reste 10 minutes de discussion ensemble avec vous au 32-16 avec Antoine Dirce, avec Abel Boyi, avec Barbara Lefebvre. 10 minutes de discussion, on va évoquer les horaires et les esclaves à vélo. C'est une enquête inédite auprès de plusieurs milliers de ces livreurs que l'on voit parcourir nos rues. Avec aujourd'hui, on peut établir leur profil de travailleurs précaires. Quoi.
Oui, il y a une étude qui a été faite auprès de ces livreurs à vélo. Ils ont été plus de 1000 interrogés et ils ont raconté leur vie de travailleurs, vie laborieuse. Ils passent en moyenne 63 heures par semaine sur leur vélo pour moins de 1000 euros net par mois. On voit quand même que c'est un travail à la fois très difficile, pas bien payé. En même temps, ça leur donne du boulot. Souvent, ce sont des personnes issues de l'immigration qui font...
Ou des clandestins.
Et des clandestins, souvent, aussi.
Alors, légal ou illégal, ça, il faut voir.
On en a 64% qui travaillent sans titre de séjour. Donc, les deux tiers n'ont pas de titre de séjour.
Qui travaillent pour des grandes plateformes. Qui répondent à une demande, à un besoin, puisque ça s'est beaucoup développé, la livraison à vélo. D'ailleurs, pas uniquement pour les repas, à peu près pour tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ceux qui commande son complice?
Oui, ça s'appelle de l'esclavage moderne.
C'est ce que j'allais dire.
Moi, je suis navrée. Quand tu fais pédaler quelqu'un 63 heures par semaine et qu'il est payé moins de 1000 balles, j'invite encore une fois, je l'ai conseillé à avoir à mes élèves, j'invite tout le monde à regarder ce film qui s'appelle Souleymane. Ça vous raconte ça, c'est-à-dire un migrant sans papier qui vient en l'occurrence là du Nigeria, qui doit absolument travailler parce qu'il doit envoyer de l'argent à sa mère qui est gravement malade au pays et qui donc sous-traite la carte de travail à un compatriote qui lui évidemment l'arnaque, qui ne lui verse jamais ce qu'il lui doit, et ce pauvre Souleymane qui passe son temps à courir sur son vélo, à rater le bus pour rentrer à l'hébergement de nuit, qui finit par dormir dans la rue et qui finit d'ailleurs par rompre du coup le mariage qu'il doit faire dans son pays et qui même déconseille vivement à sa conjointe de le rejoindre et qui lui dit non, surtout ne viens pas ici, c'est quand même l'enfer. Donc je ne comprends pas. Le Parisien, le Bordelais, le Lyonnais, qui souvent d'ailleurs, le cœur tellement sur la main, aime tellement le peuple, aime tellement voter souvent, excusez-moi, je le dis, oui, un peu à gauche, parce que vraiment, il est soucieux du travailleur. Mais pour son sushi ou son pokéball, là, il faut que Souleymane, il vienne et vite fait. et on lui dit à peine merci.
Pour
on lui dit à peine merci.
Retard.
Donc moi, cette hypocrisie, moi j'en ai marre, je souffre quand je les vois, moi je ne commande jamais. Parce que pour moi, quand je les vois pédaler, je vois des esclaves modernes qui pédalent. Et c'est cette société, oui, c'est les consommateurs qui produisent ça. Et souvent, bien sûr, hein, parce qu'ils ne peuvent pas prendre leurs deux petites jambes pour aller acheter le sushi au coin de la rue qui tourne.
Moi, je suis tout à fait d'accord sur la terminologie de l'esclavage moderne. Et puis, cette hypocrisie bobo-gauchiste qui est bien contente d'être servie par des profils de noirs en galère, faut clairement le dire.
Exactement.
Bah oui, hein, le petit noir qui vient te servir, ça rappelle une autre période. Et là, ça ne les gêne pas. On ne voit pas les militants antiracistes là faire des manifestations pour eux. Non seulement ils sont exploités, les soucis de santé, c'est une catastrophe chez eux aussi, d'accord ? Honte à l'entreprise qui les embauche, mais honte à toutes les personnes qui consomment. On connaît ces profils depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est médiatisé aujourd'hui que c'est un phénomène nouveau. Ça fait vraiment longtemps.
On compte aussi à leurs compatriotes qui les exploitent, hein, parce que c'est ce que montre bien aussi le film
Souleymane. C'est tout un système où le chien se mord la queue, mais le consommateur sait à qui il va avoir. Il n'y a pas une grosse diversité parmi ces livreurs. On sait c'est qui, on sait que c'est des personnes à qui on peut mal parler aussi souvent, parce que faut écouter certains témoignages des personnes qui sont traitées comme des chiens. Donc tout ce peuple bobo, honte à eux, et oui... Oui, nous sommes quelque part tous coupables, et aussi les politiques qui ne font rien. Hein. Parce que, encore une fois, moi,
quoi,
je veux dire...
Quoi, tu vas l'interdire ?
Mais non, mais il faut peut-être regarder un petit peu ce qui se passe, peut-être sanctionner l'entreprise qui les exploite aussi.
Attendez, il n'y a pas d'exploitation, pardon. Ce sont des travailleurs libres, ce ne sont pas des salariés, ce sont des auto-entrepreneurs. Voilà, donc sortez-vous ça de la tête. Et vraiment, ils prennent ce boulot parce qu'ils ne peuvent pas en prendre d'autres. Je ne dis pas que c'est juste.
Et donc, il y a un exploitant qui abuse de leur détresse.
Mais non, mais en fait, tu n'abuses pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de prendre le boulot.
Mais il n'a pas le choix.
Il
n'a
pas le choix.
Il n'a pas le choix. Le migrant sans papier, il n'a pas le choix.
Il n'y a pas que des migrants.
Pourquoi il n'a pas le choix?
Quand on a deux tiers, c'est beaucoup.
Attendez, j'essaye de finir. Bon, en introduction, moi, je n'utilise pas ce service pour des raisons personnelles, éthiques, mais surtout parce que c'est hyper cher. Donc, déjà, il n'y a que des gens qui ont beaucoup d'argent qui peuvent utiliser ça. Donc, on parle vraiment de très peu de Français, les plus aisés qui commandent. Voilà. Ensuite, moi je pense que je ne suis pas contre l'idée que ça puisse exister. Pour des étudiants qui veulent se faire un peu d'argent, il n'y a pas besoin de diplôme, on a sa petite auto-entreprise, c'est facile.
63 heures par semaine, l'étudiant, il va pas avoir beaucoup le temps d'étudier.
Mais non.
Moi, j'ai un fils.
Ensuite, les plateformes prennent une part trop importante. Il y a une part qui est trop faible, je suis d'accord. Mais l'enjeu fondamental aujourd'hui, et on le voit tous, c'est ce que tu décris, c'est la façon dont notre supposée bienveillance permet à des clandestins de rester sur le territoire, on continue à faire espérer et ils se retrouvent coincés à 63 heures dans ce type de boulot. Donc commençons par mettre un terme au séjour irrégulier dans notre pays et on réglera beaucoup de ces soucis, on ne nous parlera plus d'esclavage parce qu'il sera plus possible de rester dans notre pays si tu n'es pas autorisé.
On est d'accord, c'est bien parce que on les maintient sur le territoire national dans une situation de précarité extrême à dormir sous le périph, etc. C'est normal qu'à un moment, ces gens-là essaient de travailler de façon illégale pour pouvoir s'en sortir vu que on ne peut pas vivre des années, parce que pour certains, c'est des années, à être baladé entre la préfecture et les associations qui exploitent la misère de ces gens-là, parce que vous avez toutes les associations qui aussi exploitent leur maintien sur le territoire national, et ils en ont rien à faire, les Utopia et compagnie, que le gars aille s'épuiser sur un vélo, se casse une jambe et continue à faire du vélo avec une entorse quasiment fracturée. Donc moi je suis désolée, il y a toute une chaîne d'exploitation là-dedans qui, pour certains, c'est une chaîne d'exploitation avec pour autant la main sur le cœur, et tout ça c'est vraiment l'hypocrisie de notre monde. Donc tout le monde est responsable dans cette chaîne-là, aussi bien les pouvoirs publics, les consommateurs que les associations.
Aussi, je vais expliquer. Par exemple à Paris, la plupart des restaurants fonctionnent avec un service de livraison avec les deux grandes marques qu'on va pas citer mais qui sont derrière Alain Marchal. Et pour les restaurants, c'est devenu quand même une clientèle très importante parce que les gens vont moins au restaurant
c'est
qu'avant.
C'est du chiffre d'affaires.
Donc les gens sortent moins en fait en quelque sorte, et c'est du chiffre d'affaires. Donc il y a tout un système qui s'est mis en place.
Le problème n'est pas dans l'existence de ces postes, c'est dans les conditions de travail.
D'accord. d'accord.
C'est ce que j'essaie de dire.
Moi, je pense que ça a amené un service et qu'on en reviendra pas en arrière.
On exploite des gens au mépris de la dignité humaine.
Je suis désolé, bien sûr. Nous, on ne dit pas qu'ici, il y a des gens.
Doucement.
L'esclavage. Pardon. Regarde ce qu'était l'esclavage.
Non, esclavage moderne.
On a dit moderne.
À 5 euros de l'heure, c'est de l'esclavage moderne. Si ça existe.
Les VTC, c'est pareil. Il y a des VTC qui ne gagnent pas beaucoup d'argent.
Je suis d'accord avec toi.
D'heures, etc.
La question, c'est pas.
Il y a des nounous, qui gardent les enfants bourgeois,
au noir,
qui
sont payés pas payés, aussi, et qui sont souvent d'ailleurs des clandestines.
On croit que le SMIC est un minimum. Fini. En réalité, le SMIC est beaucoup trop haut et notre société n'est pas en mesure de le payer pour beaucoup de jobs.
Grand moment de demande de révolution de la part de nos GG.
Quoi que
ça une
ça.
Révolution.
Enfin, déjà, un prélude déjà.
Et on se retrouve demain entre 9h et midi avec Charles Consigny, l'avocat, Didier Giraud, l'agriculteur, Laura Barton-Mathias, la sophrologue. Et on sera avec l'ancien ministre du Logement, Guillaume Kasbarian.
Moustachu. Ah.
Il lance un parti libéral, le Parti de la Liberté. Est-ce que ça peut marcher? On verra. Bonjour Charles Magnien.
Bonjour Alain. Bonjour Olivier. Salut les GG.
Je m'assois. Parce que contrairement à Estelle, il est fatigué.
Elle est à ma hauteur.
Si je suis debout, hop.
Ah oui, c'est vrai.
Je suis très loin du micro.
Exactement.
C'est un privilège de s'asseoir à côté d'Alain Marchal.
Bien sûr.
Vas-y, enchaîne.
Dans un instant, les carburants. Le gouvernement refuse pour l'instant tout geste concret, toute aide généralisée. Est-ce que vous redoutez le retour d'un mouvement type gilet jaune? De plus en plus s'en parle. On voit ici et là sur le territoire des gens qui se rassemblent. Est-ce que vous seriez prêt à vous mobiliser? Vous nous le dites au 32-16. On va aussi parler de ce chiffre alarmant dévoilé ce matin. Les enfants, les moins de 19 ans, ne lisent que 18 minutes par jour. Est-ce que c'est désespérant? Est-ce que c'est la faute de leurs parents aussi, qui lisent de moins en moins quand les parents sont sur le smartphone? Les enfants, en théorie, à 6-7 ans, on ne sort pas un smartphone pour lire.
D'accord, mais je veux dire, les parents peuvent lire sur leur smartphone.
Si le parent est en train de lire sur son smartphone, ça donne moins de réflexion.
Jason, attends, je finis la Pléiade, j'arrive.
Exactement. On va parler tourisme. Est-ce que la France est trop chère? Est-ce que la France est trop chère pour vos prochaines vacances? De plus en plus de Français préfèrent quitter la France pour les vacances. Ça coûte moins cher d'aller en Espagne, en Italie, en Grèce. Bref, on verra avec vous à 14h. Et puis, on aura un tu préfères culinaire. Est-ce que vous préférez cuisiner à l'huile ou au beurre?
À l'huile.
Les deux. Faut mélanger les deux.
Ce que tu cuisines.
À l'huile, c'est meilleur.
Faut mélanger les deux.
Ah ouais.
Alain, l'huile.
L'huile d'olive, forcément.
Non, pas oui, l'huile d'olive, mais pour les salades. Mais sinon, c'est le reste de la cuisine, c'est au beurre.
Pour la viande.
La cuisine au beurre. Appelez Alain Marchal pour lui apprendre à cuisiner.
Tu fais pas un steak, tu le fais pas à l'huile.
Bien sûr que si.
Mélange des deux.
Testez-le, le mélange des deux.
Mais non, le steak, tu le fais même à sec dans la poêle avec juste un peu de sel au fond de la poêle. Tu mets pas de matière grasse. À condition d'avoir une bonne viande. Allez, bonne émission avec Charles Magnien en direct jusqu'à 15h.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.